Oui, je rebondis sur les sciences. Vous êtes allé dans un laboratoire universitaire à Strasbourg.
Oui.
C'est une bonne chose, c'est l'université aux quatre prix Nobel. Est-ce que vous avez pu regarder d'un peu plus près ce qui se passe dans les facultés de sciences par rapport à ce secteur considérable, c'est vrai. Mm-hmm. Pas simplement les secteurs les plus liés à l'observation spatiale, les observatoires, l'astrophysique, mais aussi d'autres secteurs qui sont impactés. Donc, il faut regarder, hein. Je pense notamment à l'instrumentation industrielle et les capteurs. Mm-hmm. C'est d'ailleurs un gros laboratoire à la Fréchette Jérôme à Marseille. Ils travaillent beaucoup avec les industriels. Et puis il y a aussi le secteur des mathématiques, notamment les mathématiques appliquées.
Peut-être Sylvie et puis
Oui, c'est une question de précision. De ce que j'ai compris, il s'agit de regarder la création de ce programme, les acteurs qui sont font ce programme-là, etc., la sociologie des carrières. Donc d'une part, de ce que vous avez dit sur des dimensions de ce programme, vous avez parlé d'utilisation des données au grand public, la question aussi de, parmi les dimensions qui sont discutées dans ces programmes, au sein de ces groupes, et de ces services, tout ce qui est aussi la conservation des données, etc. Donc il y a des dimensions qui sont propres à plein d'autres programmes que lance ce genre de commission. Et alors donc la première question, c'est en quoi ce programme, excepté le côté financier, énorme, etc., est exemplaire, et ou singulier, savoir un peu plus par rapport à d'autres programmes qui se font dans ce type d'organisme. Et puis, européen. La deuxième question, c'est est-ce que vous avez regardé, ce type de programme, vous avez dit qu'ils sont ce type-là, évolutif, etc. Donc je suppose qu'à ce type de programme, sortent des appels d'offres. Et est-ce que vous allez regarder cette dimension-là des appels d'offres qui répond le marché concurrentiel, public, privé, etc. Et comment aussi, en fait, finalement, il y a dû avoir plusieurs appels d'offres, enfin, ce marché des appels d'offres, est-ce que c'est une dimension du travail ou pas ?
Oui, alors sur la dimension faculté des sciences, moi, je l'ai observé par le petit bout de la lorgnette. Alors, je suis à Versailles, et à l'observatoire de Versailles-Saint-Quentin, qui est juste à côté. Donc là, j'ai vu en effet des collègues en météo ou en climato, ou sinon dans d'autres laboratoires, sur ce qu'on appelle le plateau de Saclay maintenant, ou LSCE, donc au sens du climat, qui se saisissent précisément des données Copernicus. Et pour l'instant, c'est quelque chose que je n'ai pas suffisamment exploré. Paradoxalement, d'ailleurs, on m'en a fait le reproche. Des gens qui étaient vraiment très investis dans le Twitter, en me disant, mais elle est où la science dans Copernicus que vous décrivez? Est-ce que là, vous êtes très engagé sur la dimension organisationnelle, politique, industrielle? Mais in fine, Copernicus a produit des données qui sont utiles pour alimenter les modèles, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je commence à regarder. Alors, je l'ai regardé par le petit bout aussi en cartographie, en géographie, mais ça fait partie des chantiers. Et c'est extrêmement difficile de tracer en fait les usages qui sont faits des données Copernicus. On peut le voir dans des publications. On va citer telle mission, ça va être Sentinel, les données Sentinel, etc. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de publics qui sortent, pas énormément. Donc, en gros, c'est en cours. Et après, sur les facs que vous avez cités, j'ai pas grand-chose à en dire. Je les connais pas plus que ça. Mais ça fait partie. En gros, la science que va produire Copernicus, c'est en ce moment que ça commence à émerger. Donc là, en gros, il faudra faire de la scientométrie, aller sur les bases, en sciences de la Terre ou ailleurs, pour voir comment ça diffuse. Là, je n'ai pas encore les données. Je n'ai pas fait ce travail-là. Mais ça fait partie des choses que je dois vraiment voir. Quoi. Alors, sur la dimension qui est vraiment pas évidente, en fait, on m'a souvent posé la question. Donc, ouais, c'est différent de tel autre programme européen, la singularité. Moi, ce qui m'intéresse, en effet, c'est comment. Ce programme-là est moulé aussi dans les façons de faire de la Commission. Et en effet, il y a des façons de faire qui ne sont pas propres du tout du spatial. Par exemple, en termes temporels, ce que le spatial pense souvent à moyen terme, voire plus long, quand on pense les missions avec des continuations de missions, avec des constellations qui émergeront plus tard, qui prendront la suite, c'est vraiment, c'est lointain, quoi. La commission, c'est à l'échelle du budget pluriannuel, avec des contraintes de reporting chaque année qui sont très particulières, et surtout des contraintes sur les non-dépassements de coûts qui sont absolument intolérables du point de vue spatial, où on a l'habitude de faire exploser les dépassements à 200%, ça fait partie des usages, et ça choque absolument personne. Là, la commission, c'est complètement différent, donc ça contraint d'une certaine façon la façon de manager les projets spatiaux, et sur les appels d'offres, donc il pourrait y avoir des parallèles qu'on pourrait faire avec d'autres types de sciences, mais pour l'instant, j'ai pas encore suffisamment travaillé la question. Mais je vois bien qu'en tout cas, il y a un travail qui est fait du côté des ingénieurs du spatial pour se mouler dans ce qu'attend la commission de ce que c'est qu'un gros programme de technosciences, quoi. Après, sur les appels d'offres, ça c'est une très bonne question. Alors, là, vous avez une vue CERTIT. Le CERTIT, par exemple, a proposé un programme en vue d'un appel d'offres qu'il a eu. La première fois, c'était dans la phase pré-opérationnelle de Copernicus, de GNES. Là, ils ont perdu le contrat qui a été remporté par une autre entreprise. Un montage un peu compliqué entre plusieurs boîtes, italiennes en l'occurrence, Telespazio, Finmeccanica. Vous avez ce genre de montage qu'il faut observer, où là, la concurrence est extrêmement vorace, agressive, pour récupérer le contrat, parce qu'in fine, il y a une délégation de services, et ces services, estampillés Commission européenne, Europe, sont mis en œuvre, réalisés, accomplis par ces boîtes qui vont donc produire les données, les mettre en circulation. Si vous tapez donc le Emergency Response Union Européenne Copernicus, vous allez tomber donc sur un site qui est mis en place, administré par cette boîte, qui pendant 6 ans va faire ce boulot et qui pourrait le perdre si le service n'est pas correct. Il se trouve qu'il n'est pas complètement correct. Il y a des gens qui se plaignent parce que les données n'arrivent pas à temps, etc.
La propriété des données, elle est à la boîte ou elle est...
C'est l'Union Européenne. C'est l'Union Européenne.
Ils sont... D'accord.
Ouais.
Parce que moi, enfin, ouais, sur ouais. un autre marché qui est là, vous savez, les passeports...
Ouais. Biométriques.
Bon, j'avais regardé ça comme ça. Et une boîte pareille qui était en sous-traitance dans les grands programmes européens, etc., avait en fait en partie... Les données, non, mais toute la conceptualisation de l'outil informatique mené à ça appartient à la boîte. Et si demain, elle peut tout à fait vendre le masque, en quelque sorte, à notre concurrent. Et donc, voilà, il y a quand même un jeu là-dedans sur la protection des données et la propriété des données. Certes, les données, elles appartiennent au secret défense, etc., mais quand même, il y a un marché derrière de la conceptualisation.
Oui, clairement. En amont. Ça, sur la question de la propriété, ça fait partie vraiment des chantiers, en fait. Parce que c'est juridique, et puis c'est extrêmement technique, c'est le droit communautaire, c'est en lien avec des droits nationaux, qui ne convergent pas forcément, sur des applications dont les produits ne sont pas encore bien pensés et matures. C'est en cours de test, encore, en vérité. Les services sont testés encore, démontrés, pour reprendre la catégorie indigène, donc là, c'est la démonstration en permanence. Et un des enjeux industriels, c'est de passer justement de la démonstration au service récurrent, et donc de passer de la promesse au service. Et ça, ça impacte directement la question de la propriété aussi, parce qu'il y a des espèces de strates, parce qu'en effet, des gens vont se saisir des images et rajouter une espèce de plus-value. Ça va être typiquement là, du CERTIT, là vous avez un copyright CERTIT. Alors qu'in fine, vous avez les logos de la commission, des agences aussi, donc DLR, l'agence, il y a le CNES, l'UE, enfin c'est une espèce de micmac insondable, et quand vous posez la question de à qui appartient ce spatiocarte, franchement c'est vraiment pas clair. Et en gros, ça, c'est un enjeu actuel, qui est à la fois politique, juridique et industriel, sur le partage des données, sachant que là, cette donnée, elle est en libre accès sur le site du CERTIT qui prône vraiment une circulation libre des données, parce que précisément, ils partent du principe que le citoyen l'a déjà financé. Et financer aussi son activité de service qui ajoute une plus-value en termes de retraitement cartographique de l'information.
Il y avait Laurent, puis il y avait Joseph, qui d'autre, Pierre, qui d'autre.
Ouais. question, une question d'abord. Vas-y, moi, c'est pas une question.
Je m'attends au pire. Une espèce de suspense.
C'est une grosse bombe au final.
Ah bah ouais.
Ça.
Bref, c'est plutôt une question d'épistémologie, enfin de sociologie des sciences peut-être, mais ouais. À propos de la sociologie justement, je voudrais savoir ce qui vous a amené à privilégier l'approche d'un bot en termes de territoire professionnel hein, et d'écologie professionnelle par rapport à des approches pas si éloignées que ça alors, en termes de mondes sociaux et de ouais. Baker. Je pense que c'est pour décrire quelque chose d'un peu flou, parce que ça reste encore un peu flou, hein, comme de ce projet Copernicus, et que je ne sais pas qui tellement fait quoi, comment on participe à ça, ou éventuellement de Champs, de Bourdieu, en fait, finalement, quelle est la plus-value de l'approche d'Abbott par rapport à ces deux autres approches quoi. C'est peut-être une question un peu compliquée pour répondre en 5 minutes,
ou ouais, 30. Ouais, parce que je suis vraiment pas au clair dessus.
Mais voilà, peut-être que vous avez, peut-être que c'est pas le même opportunisme, comme vous faites ici, au début de la présentation. Voilà. C'est vrai que c'est une approche que je connais un peu et je vois bien la pertinence, mais voilà, il y a du mal à saisir la plus-value par rapport aux deux autres approches.
Alors, par rapport à Baker, vous avez dit le flou. Mm-hmm. Et en effet, pour moi, en fait, c'est pas flou du tout. J'ai été flou. J'ai été flou parce qu'il y a beaucoup d'éléments hétérogènes et tout. Mais en fait, c'est extrêmement structuré comme espace social. Et il me semble que l'approche d'Abbott, enfin celle du System of Professions, permet précisément, parce qu'elle se base sur des catégories extrêmement définies, sur la topologie des aires de tâches, enfin je pourrais sortir tout le lexique, ça me semble extrêmement dur, au sens conceptuel, et fort, pour précisément sortir du côté un peu élastique de l'approche en termes de monde de Baker, qu'on pourrait durcir un petit peu en allant chercher chez Strauss, en effet, sur les arènes interstitielles, entre les mondes, etc. Mais je trouve que justement, Baker, c'est, même s'il y a cette focalisation sur l'activité qui me semble extrêmement heuristique, je trouve que c'est au contraire beaucoup trop flou. Et le monde du spatial n'est pas du tout. Quoi. J'ai insisté sur la dimension fermée, structurée. Il y a des frontières. Il y a tout un discours sur le spatial qui hybride à fond, qui co-construit. Moi, je ne veux pas trop de co-construction. Je veux un monde, au contraire, qui est très défini, très déterminé. Et sur Bourdieu, au départ, moi, je viens plutôt d'une appétence plutôt bourdieusienne au départ, quoi. Et c'est pas que je pense qu'Abbott parachève le modèle bourdieusien. Je trouve qu'il est, en termes d'interaction entre les univers, appelons des champs ou des écologies, je trouve qu'il est c'est beaucoup plus fin et imaginatif, dans le sens où les rapports de force entre champs, s'agissant notamment du champ scientifique, c'est annexion. Domination ou colonisation par une sphère extérieure, ça sera par exemple la politique, et là c'est plutôt l'analyse qu'il donne dans les usages sociaux de la science en 97, la conf à l'INRA, où vous avez en gros le diktat de la politique qui va hétéronomiser la pratique scientifique, donc mettre en danger son autonomie qui certes est relative, mais et là vous avez un filtre qui est l'autonomie ou l'hétéronomie qui est un des filtres possibles des modalités d'interaction entre ces structures. Bon, soyons clairs, moi je pense qu'on peut faire converger hein. À terme, je ne sais pas comment, j'ai une vague intuition, Abbott refuserait, hein. Soyons clairs, d'ailleurs il ne lit pas Bourdieu. Et donc à chaque fois, quand il vient en France, ils font « alors Bourdieu !» Et typiquement à l'USQ, tout le monde lui a posé la question « mais alors Bourdieu ?» Arrêtez avec Bourdieu, j'ai pas besoin de Bourdieu. D'ailleurs, le papier que j'ai cité, là, Écologie liée, il y a une note de bas de page qui est sur son site internet, qui ne fait pas partie de l'article, donc c'est une espèce de PDF clandestin sur son site perso. C'est une note sur mon rapport avec Bourdieu, et donc écologie et champ. Et il dit, en gros, mon univers métaphorique est beaucoup plus luxuriant et riche que celui de Bourdieu. En gros. Et je capte mieux les aspérités du réel. Mais il me semble qu'en effet, le schème dominant-dominé qui structure quand même beaucoup l'approche du champ scientifique, qui me semble en même temps extrêmement suggestive et heuristique, bon, l'approche d'Abbott permet de faire une espèce de pas de côté, mais sans oublier le truc de base qui permet quand même de les rapprocher, c'est la dimension agonistique, extrêmement conflictuelle, avec des segments, des sous-segments qui luttent pour, alors en l'occurrence, contrôler une aire d'activité, de tâches que j'ai appelée territoire du spatial, et qu'on retrouve dans l'approche de Bourdieu, en effet, la question de l'autorité, sur comment qu'est-ce que la science, comment on la délimite, etc. Ça fait partie du papier 75. Et là, je n'ai pas encore fait la pub de la revue Zilzel, qui va sortir le 3 janvier, si j'avais déjà fait. Moi, je recommence. Donc, dans le deuxième numéro qui sort en janvier, en septembre 2017, on va Zilzel, voilà, c'est la revue, on va republier un papier inédit de Pierre Bourdieu sur le champ scientifique. Et qui précisément intégrait le genre de limite que je viens de pointer de la version initiale de 75. C'est un papier qui avait été publié en version anglaise, The Peculiar History of Reason, en 91. Et là, il se trouve qu'on a retrouvé la version française. Donc, y a une espèce de dépassement Popérou, Bachelardeau, rationaliste, qui est le deuxième temps de la sociologie des sciences de Bourdieu, qui se retrouve dans le papier, qui montre qu'en effet, le modèle a un peu bougé. Hein, mais. En tout cas, sur l'intégration Bourdieu à Bob, moi, c'est une question ouverte qui se dénouera peut-être dans le bouquin, une fois que j'aurai posé au clair dans ma tête. Et oui, juste une référence. Il y a quelqu'un qui, me semble-t-il, a quand même largement contribué à articuler ces deux auteurs, ces approches. Lisez l'ouvrage de Marion Fourcade sur les économistes, paru en 2009 chez Princeton, Economists and Societies, qui est un bouquin génial, où elle pense les écologies au sens d'Abbott et le champ plus global de l'économie. Bon, je n'entre pas dans les détails, mais il y a quelques solutions qui existent, hein, mais ça reste vraiment du bricolage. Hein, pour l'instant.
Pierre, puis non.
Moi, j'ai un petit privilège, c'est que je vais raccompagner un ancien train en voiture, donc je vais dans la voiture pour. Je ramasserai les morceaux après l'explosion pour apporter la question de Laurent. Donc je pose ma question, mais je ne vois peut-être pas la réponse. Donc je commence par deux remarques, deux petites anecdotes. On n'a pas fait beaucoup de comparaisons. Ça prenait du temps de faire boulot, c'est-à-dire d'écrire, ça fait oublier la socio, mais d'écrire, ça autorise aussi la socio. Donc on va pouvoir essayer d'en faire. Deux remarques sur d'autres univers, du monde nucléaire, comme par hasard. Marcel Boiteux raconte que quand il a eu à négocier le programme électronucléaire français en 74, et il est arrivé en espérant 40 réacteurs, il s'est dit, comme d'habitude, ils vont m'en enlever 50%, je vais en demander 60. On en a 58. Manque de chance, ils l'ont dit. Et ça s'est réglé aussi simplement que ça, donc c'était pas la Commission européenne, etc. Et deux, une autre remarque, c'est à propos de l'EPR, le réacteur de Flamanville qui ne sera peut-être jamais finalement à Flamanville, mais il n'est pas sûr qu'il soit terminé un jour. Quand EDF essaie de suivre ça, j'ai discuté avec quelqu'un qui contrôle la gestion, et effectivement, on ne comprend rien à ce qu'il y a dedans, c'est Areva qui donne les réponses, et on ne sait pas ce que c'est techniquement, et on se contente de dire, bon, quand même, si vous pouviez faire un peu plus vite, ce serait bien, mais on ne sait pas faire, il y a un dialogue technique qui est un peu compliqué. Alors, c'est de remarquer, étant vu que vous avez fait la comparaison, je revenais sur la remarque de Béatrice tout à l'heure, sociaux du spatial ou sociaux de l'UE, donc sociaux des sciences ou sociaux des politiques publiques, mais finalement sociaux des financements des sciences. Est-ce qu'on est dans les politiques publiques ou est-ce qu'on est dans les sciences? On est un peu dans les deux à la fois. Donc, moi je retiens comme question, comment on fait pour financer sur de la durée à partir de choses qui ne sont pas de la durée? Donc j'aimerais bien comprendre comment tu dis ça, c'est-à-dire que finalement on est sur des recherches contrat, on a l'habitude d'autoriser des choses, puis on voit, tu nous dis, négociation budgétaire entre. Ah oui, mais c'est parce que c'est pas une négociation court terme, c'est qu'après il va falloir se coltiner pendant un certain moment, cette affaire-là. Et j'irai en passant à poser la question des déchets, donc est-ce que on programme la récupération de ce qui va nous tomber sur la tête? Vous voyez le rapport avec le nucléaire, est-ce qu'on programme la reconstruction des réacteurs? Est-ce qu'on programme le démantèlement des satellites? Et une dernière question, c'était, ok, on a compris comment on va voir qui donne les justifications possibles, comment on va travailler avec ces justifications possibles. Avec Béatrice, on se retrouve avec des choses à étudier comme ça, où on voit des chercheurs instrumentaliser des justifications du monde social pour obtenir les financements qui les font durer. Et alors, je me posais la question de, est-ce qu'il y a des déceptions sur les légitimités temporairement trouvées à tel ou tel moment, et on s'aperçoit qu'à la fin, le système ne produit pas les données qu'on avait vendues à l'avance. Est-ce que tu as vu des situations comme celle-là, et comment elles sont expérimentées par ces acteurs?
Peut-être Laurent directement, il a fait une réponse groupée. Hein.
Ah, si tu veux.
Ouais.
Non, moi j'étais content parce que par ailleurs, il est possible qu'il y ait un certain nombre de choses que je n'ai pas compris et donc mes remarques soient dénuées de pertinence. D'abord, elles sont faites en total respect, total amitié, puisque je suis absolument fan des travaux qu'évoquait Sylvie aussi tout à l'heure, que tu as pu faire en sociologie critique des sciences, c'est notre discipline. Que j'ai eu également le petit manuel sur Merton qui est super et il y a trop peu de choses en français sur les auteurs anglo-saxons. J'ai envie pour l'histoire de la sociologie des crimes, évidemment, pour un aspect. Bon, bref, voilà, que ceci soit bien clair. Mais moi, je me suis complètement perdu dans ton exposé et en fait, peut-être que je n'ai pas compris ce côté de la plaque, mais je me permets d'intervenir parce que j'ai peur que tu t'y perdes aussi.
Mmh.
Voilà. J'ai décroché, je dois dire, dans quelque chose qui est trop descriptif. Je me suis dit en écoutant au bout d'un moment que c'est pas parce qu'on est parce qu'on décrit en étant sociologue qu'on fait automatiquement de la sociologie. Tu t'es fait la remarque, mais je voudrais la pousser, mais t'es obligé de la pousser, quoi. Et d'ailleurs, quelle sociologie? Une sociologie de l'observation spatiale? Bon, moi ça me parle pas du tout. Par contre, j'ai entendu, au fil de ce que tu as dit, des choses qui m'ont parlé en termes de, en termes de sociologie des sciences, mais aussi en termes de sociologie technique, en termes de sociologie des organisations, en termes de sociologie économique et industrielle, en termes des politiques publiques, en termes de sociologie des institutions nationales, européennes, internationales, en termes de sociologie du complexe militaro-industriel, en termes de sociologie de l'environnement, des pollutions, et puis je pourrais continuer ma liste, quoi, qui sont par ailleurs des domaines patentés. Et donc, j'ai pas réussi à percevoir le cadre qu'il y avait dans tout ça. Je pense que les discussions qui ont eu lieu sur quelques auteurs m'ont paru personnellement totalement périphériques, presque surajoutées, mais absolument n'éclairant pas le cœur de ce dont il est question. En tout cas, c'est mon ressenti. Donc j'ai pas compris quelles étaient vraiment les problématiques, les questions, tu allais dire, ce que tu cherchais au fond. Ce que tu cherchais. Et donc si je comprends pas ce que tu cherches, je comprends pas du coup inversement ce que tu apportes, si ce n'est évidemment mettre de la lumière sur des choses opaques et qui coûtent très cher aux États, ce qui, ça, d'un point de vue citoyen, déjà super. Mais si on met de côté ça, on reste purement sur l'aspect socio-professionnel. Voilà, moi j'ai été perdu, j'ai peur que tu te perdes. Et comme tu dis que ça fait déjà 5 ans quand même que tu travailles là-dessus, et que tu as annoncé encore plein d'opérations à venir pour mieux comprendre le truc, je me dis waouh, le gars il va. Dans 10 ans, il sera encore un peu perdu quoi, dans la chose.
Je ne suis pas perdu. C'est-à-dire que, en gros, c'est une espèce de recherche qui est focalisée sur un problème très classique en fait, sur des techniques. C'est ça le point de départ. C'est toute une littérature en fait, que j'aurais pu citer, hein. J'aurais pu faire ma biblio initiale. Tout ce qui se fait sur la sociologie historique des systèmes techniques, alors Hughes, etc. Enfin, même la tour sur Aramis. Donc en gros, on a un système technique. Et la question, c'est quels sont les facteurs qui président à son émergence, son développement. À un moment donné, comment se hiérarchise-t-il? Donc ces facteurs, ils sont organisationnels, politiques, idéologiques, scientifique, éventuellement culturel. J'ai parlé des différenciations entre les pays. Donc c'est une question assez simple de ce type-là, qui appelle des spécifications empiriques, c'est sûr, qui sont fastidieuses, parce qu'elles obligent à aller un peu partout, et en préservant une marge de progression et d'heuristique, c'est-à-dire je ne m'interdis pas de circuler. Alors, en gros, je suis dans une phase exploratoire, mais sinon, peut-être que je l'ai mal précisé, hein, mais la ligne d'analyse, c'est expliquer l'émergence et le développement d'un programme particulier en sciences et techniques, donc Copernicus, qui se trouve pris dans une structure qui est l'écologie du spatial. Et si on ne précise pas les structures de cette écologie, on ne comprend pas très bien comment il évolue. Cette structure-là, j'ai essayé de le détailler, il se trouve qu'elle se lie aussi à d'autres structures, donc en l'occurrence politique. Ça peut être aussi militaire. Alors Abbott, lui, dans son papier, parle de l'armée militaire comme une forme d'écologie, une forme limite. Alors je ne sais pas jusqu'à quel point je pourrais aller de ce côté-là, mais en gros l'idée c'est à peu près ça, c'est la façon dont je le formalise dans le papier que j'essaye d'écrire, et c'est pas pour héroïser la description en disant « oui, regardez comment c'est horrible, il y a trop d'éléments, je vais jamais y arriver, je suis pas perdu, je sais exactement ce qu'il faut faire ». Simplement, à chaque fois, ça demande un surcroît de description, et de description au sens noble. Hein. C'est pas simplement collectionner des données pour le plaisir d'enrichir la description. Hein. C'est aussi en tant que ça illustre les mécanismes qui m'intéressent. Par exemple, les mécanismes qui m'intéressent, c'est un grand mécanisme, c'est la maîtrise du contrôle du territoire du spatial, ce qu'on produit en astronautique. Et ça, historiquement, ça émerge à un moment bien donné. Enfin, j'aurais pu vous parler de l'histoire du spatial dans les années 50-60, comment ça se met en place avec un partage militaire, scientifique et du politique. Donc là, en gros, c'est à peu près ça le schème. Et en fait, c'est hyper classique, quoi. Et donc j'ai cité Hughes, la sociologie des techniques. Copernicus est un analyseur. Et après, est-ce que c'est une sociologie de l'observation spatiale de la Terre ? Oui, dans le sens où l'observation spatiale de la Terre, c'est une espèce de syntagme là, élastique, lâche, qui capture tous les éléments tacités en fait. Et je ne peux pas faire de sociologie des sciences sans faire de sociologie politique. Je ne peux pas faire de sociologie de l'ESA sans aller voir l'UE. Au départ, j'étais pas prêt de le faire d'ailleurs. J'ai un peu résisté avant d'aller prospecter du côté de Bruxelles, parce que ça me déroutait, soyons clairs. Et maintenant que j'ai fait ce détour, donc ça reconfigure complètement le cadre d'analyse, et j'intègre de la sociologie, enfin pas des études européennes, mais en tout cas la sociologie politique UE. Ce qui a largement reconfiguré la façon dont j'envisage l'objet. Et après, par exemple, la dimension relations internationales, je n'avais pas vu arriver, et aujourd'hui, ça fait partie des choses que j'intègre dans l'analyse. Et il y a un chapitre que j'ai à peu près terminé sur la politique spatiale, et l'idée, c'est de voir comment, à un moment donné, Copernicus devient un outil pour des États, des gouvernements, à plusieurs échelles, donc ça sera national, supranational avec l'UE, un outil de promotion de soft power, ce genre de choses qu'on connaît à peu près. Mais là, de le décrire de façon très empirique, c'est-à-dire en allant voir des diplomates, ce que j'ai fait dans les ambassades à Washington, quand on parle de Copernicus, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue politique, performatif. Donc en gros, c'est tous ces éléments, je ne suis pas perdu en fait, c'est autant d'éléments que je dois connecter. Et le vrai problème, c'est comment on le sort dans un article de sociologie en 90 signes, c'est à peu près impossible. Donc en gros, l'idée, c'est de progresser à chaque fois par approximation, donc j'ai évoqué les débris, qui se trouvent pris aussi dans l'objet. Copernicus, là, Sentinel 1A, au moment où il est déployé, croise un satellite de la NASA, qui est en perdition à Cristal. Le satellite a failli exploser en phase d'envoi. C'est hyper intéressant, quoi. Donc là, il y a, en gros, c'est les débris, on pourrait dire que c'est en dehors de Copernicus. Ça fait partie aussi de Copernicus. Quoi. Donc c'est par approximation, par tâtonnement successif, j'enrichis l'analyse du programme Copernicus, mais qui reste le programme. Et si je devais vraiment résumer mon projet, et mettre des tags et tout, ça serait en gros sociologie historique d'un programme de technosciences contemporain, l'exemple de Copernicus. Et ça sera à peu près le propos du bouquin que j'ai essayé de sortir, avec donc des chapitres politiques, industrie, et l'enjeu c'est de les connecter, tu vois. Et alors je sais pas si je te réponds, mais c'est une question très simple. En sciences des sciences, je pourrais faire référence aussi aux travaux de Mölkky et Edge sur l'émergence de la radioastronomie. Donc là, il y a une technique à un moment donné, l'analyse radar des étoiles, enfin des rayonnements fossiles. Et là, on a une technique qui va reconfigurer une discipline. Là, on a à peu près la même chose. On a une technique qui se met en place au fur et à mesure. On en fait la sociologie historique. Et le grain est. À mon avis, l'intérêt cognitif de l'analyse, c'est de montrer aussi que ce programme, il y a eu des aléas, il aurait pu sombrer, il a failli bifurquer plein de fois. Donc, peut-être que je suis trop attentif aux détails et que je me perds en route, ou que je perds l'auditeur. Mais l'idée, c'est à la fois donc de suivre ce canevas très simple, de quels sont les facteurs, comment ça se développe, pourquoi. Pourquoi ? Parce que tous les enjeux sont là. Et en même temps, montrer le subtil déploiement dans l'histoire. Sachant que ça a 20 ans, en effet. Bon, je ne sais pas si je réponds à ta question, si c'est plus clair, si tu es toujours perdu.
Moi, je veux bien, ouais. bien un rebond, parce qu'au fond, ouais. cette discussion n'est pas qu'une discussion entre vous deux, elle est une ouais. discussion aussi qui peut intéresser des doctorants dans la situation ouais. de « Ah, je suis dans mon affaire, est-ce que je suis encore en train de faire de la sociologie ?» Et vous, ça, c'est, ce... c'est toute la remarque de Laurent qui dit « D'écrire en sociologue ne suffit pas à faire de la sociologie. » On est d'accord. Mmh. Que ce que tu fais en décrivant en sociologue, c'est au moins désindigénéiser cet univers. Mmh. Donc ça prend une énergie dingue de rendre ça compréhensible pour nous. Et alors, est-ce qu'il faut rajouter que dans notre programme, on a intégré les balises de la sociologie pour que Laurent dise, ok, il fait son effort de désindigénéiser, mais il faut aussi qu'il me laisse des balises de. Il fait de la prosopographie pour me dire il passe d'un secteur à l'autre, le pantouflage, qu'est-ce qu'il en tire Il y avait des pantouflages, mais on ne sait pas ce que tu as appris, des apprentissages, qui se déplacent ou pas. Donc finalement, on doit faire ce boulot de sortir d'un univers complexe, mais aussi de faire le boulot d'intégrer régulièrement des points de dialogue avec le reste de la discipline. Alors, tu en dis, c'est fait sur territoire professionnel de Abbott, mais ça ne satisfait pas, donc il en faudrait plus, il en faudrait d'autres, ça peut être par des auteurs ou ça peut être par des balises. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, j'entends bien ça, effectivement. La capacité finalement à retraduire ça dans une sociologie générale, pour les
accueillir. Ouais.
C'est ça que j'appelle se perdre en route dans
bah, c'est un travers de la sociologie des sciences, soyons clairs. Notamment de la sociologie des techniques, que je connais bien, et peut-être trop bien. Là, j'ai cité Aramis, c'est pas pour rien. On ne voit pas de sociologie. C'est justement ce qui fait aussi un de ses intérêts, par ailleurs. C'est peut-être le meilleur bouquin de Bruno Latour. Je dis une énormité qui restera entre nous. Et c'est l'histoire d'un ratage, hein, que je trouve assez magnifique, avec des prouesses d'écriture purement latourienne. Et en effet, dans la spécification de l'objet, on tend à se perdre. On a évoqué Michael Lynch à midi. Michael Lynch, donc les premières ethnographies de laboratoire. On ne voit plus la sociologie. Là, c'est l'optique ethnométhodologique. Il y a peut-être un surcroît de réflexion philosophique sur ce qu'il appelle les épistopiques. Qu'est-ce que c'est que l'observation? Par exemple, j'ai une réflexion que je mène par ailleurs toujours dans le même article, sur le concept de l'observation globale. Qu'est-ce que ça veut dire qu'observer? Et en quoi c'est différent de surveiller? Observer, surveiller... Donc là, on a des pratiques cognitives, scientifiques, qu'il faut aussi travailler d'un point de vue de sociologie de la connaissance, pratiquement, que j'ai pas du tout cité aujourd'hui, parce que là, je t'aurais encore plus perdu, je pense. Mais l'idée, c'est d'être précis aussi dans les termes, parce qu'il se trouve que mon seul public, pour l'instant, c'est pas les sociologues. C'est les gens du CNES, de l'ESA ou de la NASA avec qui j'interagis. Et qui, du point de vue de la technique, sont extrêmement exigeants. Et hier, par exemple, j'ai dû décrire des process en sciences du climat. Et en face, j'avais des gens du GIEC et tout. On raconte pas n'importe quoi.
La moindre erreur, on est balayé.
Ah non, mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Par exemple, de mal décrire un loop opérationnel sur un satellite, je me suis fait viander en conférence à Toulouse. Donc ça, voilà. L'enjeu, en effet, c'est de sociologiser. En fait, à l'écrit, tu verrais que ça l'est. Après, c'est un travers, je pense, oral, et puis j'ai une tendance à... Bref, pathologique, à une espèce d'effervescence discursive. Mais en gros, pour moi, c'est extrêmement cadré, et simplement, c'est pas habituellement lisible en sociologie. Parce que c'est extrêmement... confidentiel et exotique, la sociologie des techniques. Encore aujourd'hui, si aujourd'hui il y a le buzz autour d'Internet, c'est les objets connectés, donc voilà, plein de choses qui se font à ce niveau-là. Mais sur les grosses infrastructures de sciences, c'est surtout en histoire des sciences, en histoire des techniques, Paul Edwards, sur les infrastructures globales, il y a des bouquins, mais en effet, ça reste. Là, j'ai cité la thèse d'épistémologie des données, qui est donc par ma collègue Gemma Sirac, c'est une thèse d'histoire des sciences, d'épistémologie. Ah, qui est, en effet, tu verras jamais un début de sociologie, quoi. Voire même de philosophie des sciences. Parce que c'est tellement spécifique sur qu'est-ce que c'est qu'une image, un retraitement, ce que c'est que les chaînes de valeur dans la production des images et tout, que, bah oui. En même temps, si tu le fais pas, tu passes à côté de l'objet. Et moi, longtemps, parce que je me suis protégé derrière les concepts sociologiques, je suis passé à côté de l'objet, en fait. Les premières années, parce que c'était confortable, j'ai plaqué les. Qui m'étaient les plus confortables de sur les professions. C'était pas seulement Albos, c'était aussi Fredson, etc. Et ça marchait extrêmement bien. Et en fait, en discutant avec les gens qui bossent sur ces questions-là, enfin, les opérationnels, les professionnels du CNES ou autres, qui ont 30 ans de bouteille dans le spatial, je me suis rendu compte à quel point j'étais à côté de l'objet, quoi. Donc ça, en effet, il y a une technicité. Alors, j'ai pas parlé des déchets, mais on en parlera dans la voiture. Pareil, sur les déchets, bah, quand on va discuter avec des experts qui mélangent du droit, de la sûreté, de la R&D sur les aspirateurs qui vont permettre peut-être plus tard de récupérer les déchets, donc il y a une réflexion là-dessus, sachant qu'avant, on ne réfléchissait pas du tout sur les retombées, hein, c'était là, puis on en voyait. Ça, c'était le Space Age 1.0. Là, si on en doit vraiment, bah, on doit faire de l'orbitographie, et on perd peut-être les enjeux politiques, mais je pense que c'est une phase qui est importante dans la recherche, sinon on passe à côté, quoi. Et on n'est pas crédible chez les gens qu'on a prétention à étudier. Et ça, je pense que c'est vraiment crucial, quoi. Parce qu'il y a un discours sur la sociologie des sciences en gros, le sociologue des sciences, c'est science-société, quoi. Il n'a rien à regarder sur les pratiques scientifiques, sur la technicité des formes organisationnelles, des conduites opérationnelles. Il me semble qu'on a quelque chose à dire, mais ça suppose en effet d'entrer dans le grain, quoi. Et la question que tu poses, qui est vraiment fondamentale, et je la garderai toujours à l'esprit maintenant, ça résonnera, c'est sociologise à minima pour être lisible par tes collègues sociologues. Sinon, en effet, tu perds un marché quand même crucial. Les éventuels acheteurs de mon bouquin.